Oui, une question peut-être, vous l'excuserez, un peu littéraire, sur la filiation qui est la vôtre, au point de vue artistique. Serait-ce un gros mot de parler de réalisme merveilleux, selon la définition qui a été donnée par Jacques Stephen-Alexis des 36. Alors, est-ce que vous vous revendiquez de ça? Y a-t-il d'autres influences majeures dans votre écriture?
Mais déjà, ne vous excusez pas d'une question littéraire dans une rencontre littéraire. Vous avez bien raison. Et au premier abord, je vais vous dire très sincèrement oui. C'est-à-dire que c'est ma littérature préférée, faite par Aléo Carpentier, Gabriel Garcia Marquez, bon, qui l'appelle réalisme magique ou réalisme merveilleux, Jacques Stéphane Alexis, c'est ma littérature vraiment préférée. Mais au second abord, je vous dirais que le terme de réalisme merveilleux met quand même une distance, ça rend la chose un petit peu exotique, etc. Alors que la vie elle-même est merveilleuse, c'est-à-dire, j'appellerais ça de la littérature tout court. C'est, ou du moins, je pourrais appeler ça du réalisme spéculatif, ou je ne sais pas comment, ou du réalisme attentif. Oui, j'appellerais ça du réalisme attentif, une façon de souligner qu'on prête attention à ce qui fait le côté merveilleux de la vie. Même quand on pense que la... Même si on était cartésien, etc., rationnel, c'est-à-dire qu'on ne croyait pas à l'arrière-monde, etc., l'existence serait quand même merveilleuse, extraordinaire. Le ressenti de soi est quand même extraordinaire. Mais regardons les choses. Posons les questions aux gens, posons-nous nous-mêmes des questions. On vit avec beaucoup d'entités qui ne sont pas des entités qu'on peut montrer de manière biologique aux gens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appartenances qui nous traversent et qui nous meuvent, qu'on ne montre pas aux gens ou qu'on ne saisit pas de la même manière qu'on puisse saisir ce verre, etc. C'est la vérité pure et simple. Je veux dire, ce n'est pas comme si il y avait d'un côté les traits cartésiens rationnels européens et d'un autre côté, bon, les autres là, dont on ne sait pas trop bien ce qu'ils font et ce qu'ils font et à quoi ils croient. C'est-à-dire, déjà, partout, il y a tout le temps, bon, la Vierge Marie, Jésus-Christ, etc., et l'islam, machin. Mais partout aussi, les gens se déterminent par rapport à des choses qu'ils ne voient pas du tout. Donc, pour faire court, en ce sens, le réalisme merveilleux, c'est tout simplement la vérité de la vie de chacun. C'est-à-dire, bon, allez expliquer à quelqu'un qui tous les matins parle à Dieu et à qui Dieu fait des cadeaux, allez lui expliquer que qu'il délire, que c'est un être extraordinaire, que non, je veux dire... C'est pour ça que je dis aux gens que, bon, finalement, il n'y a pas de croyants. Il y a ceux qui ont les entités spirituelles dans leur vie et qui l'acceptent, et il y a ceux qui ne l'ont pas dans leur vie et qui ne l'acceptent pas, pour une raison très simple. La personne dont on dit qu'il est croyant, lui, il vit vraiment avec Dieu dans sa vie, je veux dire. Et quand il se lève le matin, il parle vraiment à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice très singulier qui s'appelle la prière, qui consiste à parler vraiment à Dieu. C'est-à-dire, les gens disent à Dieu, viens, j'ai un truc à dire. Et puis, ils disent, mon fils a des problèmes, est-ce que tu peux... Et Dieu répond, je veux dire, à un certain moment, non, mais je suis très sérieux, à un certain moment, il dit, Dieu, est-ce que tu veux que mon fils change son comportement et le lendemain matin, ou je ne sais pas quand, le fils change de comportement ou pas? C'est-à-dire que Dieu n'était pas d'accord. Après, qu'est-ce que tu veux que je n'invente rien. C'est-à-dire, quand tu dis, voilà, tu sais, et les gens savent que Dieu peut ne pas être d'accord. Ils disent, bon, je te le demande, tu peux ne pas être d'accord. Hein. Alors, dans tous ces prieurs, ce que je préfère, c'est les Haïtiens, parce que parfois, ils interpellent un Dieu et ils disent, tu dois être d'accord. Je veux dire, là, on rigole pas, ça doit se passer comme ça. Tout ceci pour dire. Sinon, la dernière bonne raison de prier, c'est que les prières sont très belles. Les prières sont très belles, c'est-à-dire que c'est des belles choses, hein, vraiment. Le Padre Nuestro en latin, l'Alpha Tira en arabe, c'est de très belles choses. Hein. Donc, tout ceci pour dire que oui, je reconnais la filiation réalisme merveilleux, mais je ne l'appellerai même pas comme ça. Je l'appellerai réalisme attentif. Parce que c'est juste prêter attention à ce que font réellement les gens. Vous savez que le médicament le plus utilisé au monde, ce n'est pas le Doliprane, c'est le poulet. Et c'est vrai. Il y a énormément de gens pour des problèmes de santé qui tuent un poulet. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, non, mais vous, c'est-à-dire que le poulet, c'est le médicament numéro un. C'est quoi le plus gros psychotrope? C'est-à-dire quand les gens sont inquiets, ils ne vont pas prendre c'est-à-dire, en termes de quantité, le plus gros psychotrope au monde, c'est les genoux à terre. Les gens prient quand ils sont inquiets. Leur premier réflexe, c'est pas de prendre un cachet. Hein. C'est faux. C'est faux de dire que le plus gros psychotrope, c'est je sais pas quoi. Non, c'est les genoux à terre. Après moi, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne peux pas disqualifier tous ces gens-là, dire que je suis un intellectuel et que je comprends tout, voilà. Non, je considère qu'ils ont raison. Et que oui, la preuve, c'est que ça marche. Je veux dire, on ne peut pas nier que ça marche. On ne peut pas nier. Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas nier que ce que pensent les gens marche réellement, c'est la thérapeutique. Les gens se sont toujours soignés. Ils se sont toujours soignés par des méthodes dont on dirait qu'elles ne sont pas rationnelles. Mais bon, les gens restent vivants en général. Voilà, c'est juste pour dire que je dirais que c'est du réalisme attentif.
Merci, Némi. Mademoiselle.